français parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète. Les carottes sont cuites, 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 cuites. Le loup est dans la bergerie, je répète. Le loup est dans la bergerie. Le groove perdu va commencer. Je répète, le groove perdu, perdu va commencer, 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 commencer.
Donnez-moi un jean.
Alors, ce comité de 9 langues,
il fait des heures supplémentaires. Le plus gros déchet, ce sont les adjectifs. Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique.
Oui.
Quelle belle chose que la destruction des mots. Pas vu la 10e édition du dictionnaire Smith ? Épaisse comme ça. La 11e sera encore moins épaisse.
Oui, au fond, la révolution sera vraiment terminée quand la langue sera parfaite.
Le secret, passer du traduire aux pensées directes et de là en réponse automatique. Pas besoin d'autodiscipline. La langue venant de là, pas de là.
Excusez-moi de vous déranger, mais ce que vous dites, c'est qu'on sera débarrassé des derniers vestiges du goldsteinisme quand la langue sera mise au net. Je partage entièrement votre point de vue.
9e plan triennal.
Absolument.
Des résultats vraiment ahurissants.
Bonjour Amélie Seigneur.
Bonjour Jean-Philippe.
Amélie Seigneur, vous êtes maître de conférence à l'Université de Montpellier, oui. Laboratoire MRM, Montpellier Recherche en Management. Autrice dans l'ouvrage édition EMS Grands auteurs aux frontières du management, coordonné par Marc Bidan et Frédéric Livian, d'un chapitre consacré à un petit auteur, Orwell. Et vous nous dites Orwell et la langue managériale, c'est 1984. Donc on va parler ensemble de 1984. Orwell est un peu dans toutes les têtes quand même aujourd'hui. Hein. D'abord, pourquoi finalement avoir choisi Orwell et l'ouvrage 1984 ?
Je suis moi-même très intéressée dans mes travaux de recherche par l'acculturation des salariés dans les grands groupes. Je pars du principe que ces grandes entreprises ne sont pas des entreprises post-fordistes, mais néo-fordistes, que on va normaliser, si je reprends la typologie de Mintzberg, non seulement les process de travail, mais les résultats, mais les qualifications, mais on va aussi normaliser les perceptions, les représentations sociales et les comportements au travail. On travaille beaucoup sur l'engagement des salariés, on instrumentalise beaucoup l'engagement des salariés, et pour qu'ils adoptent un comportement ad hoc, eh bien, on va essayer effectivement de normaliser déjà leur mode de pensée. Et donc, il y a un contrôle social qui va s'exercer sur les salariés. Et qui a mieux parlé du contrôle social que Orwell dans 1984 ? Ben, franchement, je vois pas. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment eu envie de travailler sur 1984, parce que Orwell va nous montrer vraiment les ressorts d'une société totalitaire, et surtout il va nous montrer les ressorts de la propagande, de l'intériorisation par le citoyen de toute une norme comportementale qui repose certes sur la peur. Hein, bien sûr, il y a des caméras, il y a des hélicoptères qui volent autour des immeubles, il y a l'arbitraire, hein, il y a le poids de l'arbitraire qui a aussi un des ressorts du totalitarisme. On ne sait jamais si ce qu'on fait c'est licite ou illicite, et donc s'il n'y a pas de loi, le risque de transgresser. On peut dire transgresser une absence de loi, mais bon, il y a de ça quand même. Il y a la falsification de l'histoire, il y a tout ça. Mais il y a quelque chose qui me paraît encore plus extraordinaire par rapport à ce qui, moi, m'intéresse, bien sûr, c'est la destruction du langage. Et donc, la destruction du langage, elle repose notamment, pas que, mais sur la création d'une nouvelle langue qui a comme spécificité non pas d'avoir un lexique qui va grossir, mais un lexique qui va rétrécir. Petit à petit rétrécir, perdre des mots, perdre des nuances. Et c'est le point peut-être qui m'intéresse le plus dans cet ouvrage qui est très très riche, qu'on peut prendre par plein de bouts, plein de morceaux. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette destruction du langage et puis de voir comment elle fonctionne. Et Orwell met les mains dans le cambouis. Et puis il va montrer que c'est un lexique tautologique, de plus en plus appauvri, et c'est aussi un lexique arbitraire lui-même, puisqu'un signifiant peut avoir plusieurs signifiés, tout dépend de la volonté à un instant T de Big Brother. Ce lexique va petit à petit supprimer les adjectifs. Donc... On n'a pas à qualifier, quoi. On rentre dans une pensée totalement binaire, qui va plus y avoir d'antonyme, c'est-à-dire que mauvais, c'est plus, il y a plus de mauvais, il y a bon, quoi. Il y a dire, il y a le préfixe privatif suivi du terme. Donc voilà, on rentre dans un appauvrissement petit à petit, absolument fascinant. De la faculté de parler, donc de la faculté de penser. Hein. C'est bien sûr la thèse d'Orwell, mais ça rejoint les thèses des linguistes de toute façon.
Ils ont réussi à nous monter les uns contre les autres. Ils nous ont planté un couteau entre les côtes. Démocratie et machination. La cruauté de l'homme ne décalque son imagination. Je vais dire ce que je veux, quand je veux, où je veux. C'est malheureux, mais y'aura pas de révolution sans coup de feu. On est victime d'un système douteux. Pour neutraliser la pression, on émiette un bout de peu. Lavage de cerveau, population asservie. Ils prennent un malin plaisir à nous voir croquer dans le fruit interdit. La race humaine est perdue, contrôlée par des hypocrites et des bourges tortues. C'est le lièvre et la tortue, on évolue en porte-feu. En plus, les médias contribuent à protéger l'imposteur. Anonyme, comme la menace terroriste. On a toujours plus à gagner quand on prend des gros risques. Formation, manipulation de masse. Car on a touché le fond, c'est dur d'en voir la surface. On fait du surplace. Leur système pyramidal me rend du furax. Ils veulent une religion, une langue, une race. On paye la facture, 666 piastres plus taxes. On fait du surplace. Leur système pyramidal me rend du furax. Manipulation de masse, ils nous ont rendus fous malades. Ils nous ont parlé tous à mort, mais c'était des salades. Dis-moi où ça va, pourquoi partout ça barre. Les hauts placés sont avant tout doués pour foutre la marre. La justice est pas telle qu'on nous l'a décrit. Malheureusement nos dirigeants ont une putain d'appétit. Manipulation de masse, masque et mascarade. Pour justifier la présence militaire en territoire arabe. Le prince des ténèbres se réveille. L'Amérique nous a trompés, c'est pas le pays des merveilles. D'une manière ou d'une autre, ils nous surveillent. L'État est une tasse, il faut pas se fier sur elle. Pour qui le pétrole est prolifique? Qui a divisé le peuple avec des narcotiques? Dis-moi qui va en guerre pour imposer sa politique? Qui fait le fric et à qui ça profite?
Quand on importe ce concept de novlangue au monde des entreprises, qu'est-ce qu'on voit ?
On voit bien sûr un lexique tautologique. Là, je vais par moi-même revenir sur ce que j'ai déjà dit. On voit bien sûr tout ce que j'ai pu analyser dans l'œuvre de 1984 à propos du langage. On le retrouve vraiment dans le langage des entreprises. On voit cette naturalisation, cette réification des concepts, tout ça. On le voit très clairement. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est pourquoi, hein, pourquoi est-ce qu'il y a cet appauvrissement de du langage, cet appauvrissement de la pensée, pour qu'il y ait appauvrissement de la pensée, ça je ne sais pas, hein, je ne suis pas en train de dire que l'univers des entreprises c'est l'univers totalitaire d'Orwell, pas du tout, c'est pas le propos de mon chapitre. Mon propos de mon chapitre c'est de dire que quand on veut acculturer des gens, bah, il y a un certain nombre de mécanismes et que ces mécanismes ils sont décrits de manière évidemment grandiose dans le texte d'Orwell et que ces mécanismes là, on peut les retrouver. Alors moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on parle de la bureaucratie, dans le langage, donc de la novlangue, bah, on en fait finalement quelque chose d'un petit peu dérisoire, de ridicule, de grotesque. Puis on s'aperçoit finalement bah, que c'est pas si ridicule et si grotesque que ça. Ça masque plein de choses. Ça masque les liens de domination. Ça crée aujourd'hui... cette espèce de doxa, de l'empathie, du fait qu'il faille être consensuel. Et on voit bien que, en gros, cette novlangue managériale ne pose plus les termes de ce qu'est une entreprise, parce qu'on a envie de donner l'illusion que c'est devenu, surtout dans certains cas, un espace dans lequel il n'y a pas de domination. Or, la violence symbolique, pour reprendre une terminologie de Bourdieu, elle est omniprésente quand on décode un petit peu ce langage qui est fait justement pour masquer la violence symbolique, pour donner l'illusion qu'il n'y a pas d'idéologie, qu'on est dans une culture de l'évidence. On n'est plus là pour argumenter, mais on est neutre, on n'est pas dans quelque chose d'idéologique, on est dans un discours d'expert. Et donc moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est d'aller voir comment, ça c'est ce que j'essaie de faire dans certains de mes papiers, comment ce discours de l'expert fonctionne en fait pour brouiller les cartes, pour euphémiser. On est vraiment dans le monde de l'euphémisation justement, pour que les gens intériorisent complètement cette contrainte, the soft power comme on dit par ailleurs. Moi, je vais prendre deux petits exemples que je donne dans mon chapitre, parce que je trouve que c'est très parlant. On parle de les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Troubles musculo-squelettiques, c'est quand même bizarre comme façon de parler. C'est quoi un trouble musculo-squelettique ? C'est une douleur qu'éprouvent les gens parce qu'ils travaillent, que c'est fatigant, que physiquement, qu'il y a une pénibilité qu'on aimerait bien aujourd'hui, gommer l'immatériel, etc. Il y a des gens, ils portent des carcasses de viande sur leur épaule, ils ont des troubles musculo-squelettiques, et pas que, et aussi dans le tertiaire, on peut avoir des troubles musculo-squelettiques. On fait comme tout ça, ça n'existait pas. Puis je vais prendre un autre terme plus récent, qui est apparu il y a peut-être, je sais pas, une dizaine d'années, finalement, guère plus, les RPS. Là, c'est pareil, un risque psychosocial. Bigre, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de risque psychosocial ? Là aussi, on évite de nommer que là, c'est plus la souffrance physique, c'est la souffrance psychologique, parce qu'il y a une souffrance au travail, parce qu'il y a une violence au travail. Et ok, très bien, je vais pas dire très bien, mais tout ça, on essaye de faire comme si ça n'existait pas. Alors, il va y avoir cette terminologie qu'on va resserrer jusqu'à avoir justement un sigle qui finit par perdre toute substance. Et c'est ce que montre très très bien Orwell dans son ouvrage, c'est à quel point tout est fait pour faire perdre du sens et de la substance au moment où des négations obligent. On n'a jamais autant parlé de sens au travail qu'aujourd'hui. Eh bien, on voit bien que le sens, au contraire, on le gomme.
What you need, huh? Crack. 20 bucks?
Crack?
Yeah.
Smell like bacon in this motherfucker. What, I look like a sucker to you, nigga? Fuck you, rookie.
Nightmare you ever had. Figure a trigger happy nigga with a badge parading around Los Angeles. High off coke.
skunk with a banana clip. Feasting off the weak street evangelist with a manuscript and professional ass whipping. Task force, brass knuckles, a master with ass kicking. If you ask for it, I blast for it, you're back flipping. No one saw it, I won't stop, the clock's ticking. Got a rookie for a partner that's ready to fight niggas. The world's a merry-go-round, a stereotype niggas. He's a spit in the face of a pit bull and bite niggas. Matter of fact, kinda like this cat for a white nigga.
Get your hands up against the wall and spread them. Opposition, I'll just spread them. Fuck you,
fuck you,
fuck you,
fuck you.
Understand, I'm not fucking around with you. Try to resist, I'll dismiss you. Fuck you,
fuck you,
fuck you,
fuck you.
I got the projects on lock, they trust my logic. Cause the star cops got it from guns to narcotics. My object is to deprogram, blind your optics. You cannot stop this mission, this topic. Cause you can write tickets, my nigga, or get paid. Learn this game in the streets or get slayed. Collect this cheese at the end of this maze. Or hit the desk and fill out forms for days. Need I remind you how easy it would be to take the city by storm with a whole force behind you? Shotty in the trunk and on my ankle there's a 9-2. Cause psychologically the guns you use will define you.
Hit your hands up against the wall and spread them. Opposition, I'll just spread them. Fuck you,
fuck you,
fuck you,
fuck you.
Understand, I'm not fucking around with you. Try to resist, I'll dismiss you. Fuck you,
fuck you,
fuck you,
fuck you.
These evil streets don't sleep, be careful with whom you mingle. In a city where it pays to be bilingual. Yo soy grifo, no me importa un culo. Via a Diablo, a favo. Leaving enemies dead on arrival. For a couple of mil and you're fucking the deal up. Trying to play hero cop and you still suck. Put you to bed with one in your head, you won't feel much.
Hit your hands up against the wall and spread them. Opposition, I'll just stand them. Fuck you,
fuck you,
fuck you,
fuck you.
Understand, I'm not fucking around with you. Try to resist, I'll dismiss you. Fuck you,
fuck you,
fuck you,
fuck you.
Hit your hands up against the wall and spread them. Opposition, I'll just stand them. Fuck you,
fuck you,
fuck you,
fuck you.
Understand, I'm not fucking around with you. Try to resist, I'll dismiss you. Fuck you,
fuck you,
fuck you,
fuck you.
Managérial, tant que tout va bien, il n'est pas nocif. C'est quand les choses vont pas bien qu'on se rend compte de sa nocivité. Je suis Agnès Van de Velde-Rougal, docteur en anthropologie et sociologie. Je travaille sur le discours managérial et son influence sur les individus. Le terme novlangue managériale est inspiré par le Newspeak du roman d'Orwell 1984, qui a été traduit par novlangue et néo-parlé en français. Et managériale, c'est l'idée de caractériser un système d'expression de la pensée développé par les managers, la communication institutionnelle, les organisations, etc. Dans l'idée que le discours, il sert aussi à mobiliser les gens au service des objectifs d'une organisation. C'est pas nécessairement dans une visée manipulatoire, ça peut juste être parce que ça facilite aussi le fait de travailler ensemble. Le discours managérial, un peu comme toutes les langues de spécialité finalement, il va avoir des caractéristiques un peu propres, par exemple l'utilisation d'acronymes, des néologismes. On peut aussi relever l'utilisation du tutoiement, des prénoms, une espèce de brouillage ou d'effacement de certaines dimensions langagières qui marquaient en fait la hiérarchie. On retrouve aussi des termes qui vont marquer d'une certaine manière la hiérarchie, par exemple le N+1, le N+2. Ça montre cette dimension de ressources des humains qui sont mises au service de l'organisation et qui sont remplaçables en fait. On peut remplacer un N par un autre N. La novlangue managériale, on la trouve bien sûr dans le monde du travail, mais on la trouve aussi dans d'autres sphères de la société. À l'école, par exemple, avec l'approche compétences qui a été introduite dès la maternelle et qui conduit à voir les apprentissages d'une manière un peu utilitaire. Retrouver ce discours ou cette novlangue managériale un peu partout dans la société, je dirais que c'est plutôt une mauvaise chose parce que ça conduit à avoir une grille de lecture dominante qui limite les interprétations possibles des événements, de ce qu'on vit. Ça se voit par exemple en matière de souffrance au travail. Le fait de voir les choses au prisme de la rhétorique managériale qui met l'accent sur l'autonomie, la responsabilité, les bonnes relations à soi, aux autres, etc. Ça amène à se remettre en question d'abord soi-même, éventuellement à culpabiliser par exemple de ses échecs, mais sans interroger le contexte aussi qui a pu favoriser cette souffrance ou ces échecs. On peut passer à côté d'autres facteurs qui sont pourtant importants. Le système capitaliste néolibéral bénéficie du discours managérial qui met les individus au service des marchés plutôt que l'inverse. Les départs volontaires à la retraite donc ils sont mis en avant comme au bénéfice des individus, mais on masque en même temps le fait que généralement ces départs à la retraite ils sont pas remplacés en fait. Ce qui fait que ça met plus de pression sur les individus qui, eux, vont rester dans le service et qui vont devoir absorber toujours plus de travail. Mais tout ça, c'est masqué par l'idée de départ volontaire à la retraite, au lieu de mettre l'accent sur le non-renouvellement des effectifs, par exemple. Je pense que ce qui est important pour limiter les effets délétères du discours managérial, c'est de se rappeler qu'il n'y a pas qu'une seule manière de dire, de laisser en fait la porte à d'autres paroles. On pourrait imaginer de créer des espaces d'écoute et de parole qui permettent de s'exprimer autrement qu'avec un langage professionnel ou dans les codes de l'entreprise et sans nécessairement être jugé. En dehors de l'entreprise, donc on peut aussi penser à des initiatives comme Balance ton stage, Balance ta startup, qui donnent en fait la place à des témoignages qui peuvent s'exprimer selon d'autres mots que ceux qui sont attendus dans les organisations de travail.
Il est interdit de salarier un homme. Démission à la moustache du capitaine. Économie, ça veut dire radinerie. Un sou est un sou.
Mais nous on s'en cogne, on va tout voler, on va tout donner comme ça gratos, ça vous faire boule. L'économie, c'est la science de l'avarice, le royaume des enculés. Elle attendra l'économie qu'on lui trouve un putain de sens.
Ouais non, peut-être, je sais pas. Est-ce que tu peux répéter la question? T'es plus le boss de moi maintenant. T'es plus le boss de moi maintenant. T'es plus le boss de moi. Et non, t'es pas si grand. T'es plus le boss de moi maintenant. T'es plus le boss de moi maintenant. T'es plus le boss de moi. Et non, t'es pas si grand. Alors je vais juste mater la tâche qu'il y a sur le mur, là où il y avait la télé. Mais depuis qu'on a déménagé, non, il n'y a plus rien, ouais, c'est tout vide. Et pourquoi? Ouais, pourquoi je suis dans cette chambre? C'est même pas la peine d'être.
Je m'appelle Julie Artis et je suis consultante bien-être au travail et Chief Happiness Officer engagée. J'accompagne les entreprises et leurs collaborateurs à cultiver une nouvelle vision du travail qui est gage de sens et d'épanouissement, où chacun peut vraiment trouver du sens dans son travail, être considéré, valorisé, apprécié à sa juste valeur. Et donc, je les accompagne pour permettre de mettre en place certains leviers du bonheur au travail au quotidien. Et du coup, mon rôle, c'est aussi de démocratiser ce métier qui est de Chief Happiness Officer, qui est ultra important à mon sens et qui est un vrai ambassadeur dans les entreprises de ce sujet du bonheur au travail et qui va avoir pour mission de, du coup, impulser des petites graines de bonheur dans l'environnement professionnel. Une journée type. Alors, il n'y a pas de journée type, c'est ça que j'adore parce que c'est très important de sortir d'une routine pour pouvoir s'épanouir de son travail et d'essayer de se demander un peu comment on peut mettre du sens dans son travail. Et je pense que la première chose essentielle à faire, et en tout cas que moi je fais le matin, c'est de poser une intention pour ma journée et de me demander comment je vais faire en sorte de vivre cette journée pleinement et de la réussir. Et je me fixe trois objectifs que je mets tout en place, en tout cas pour essayer de les atteindre. On aime beaucoup. Alors j'ai la manie de commencer des livres et de jamais les finir parce qu'il y en a tellement qui sont intéressants. À chaque fois, j'en chope un nouveau. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Je lis beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat puisque je suis en train de développer mon entreprise sur ce sujet du bonheur au travail et du Chief Happiness Officer. Donc pas mal de livres entrepreneuriat qui m'inspirent. Ouais. Alors aujourd'hui, je travaille assez régulièrement dans les cafés parce que ce sont des lieux qui m'inspirent. J'ai besoin d'un environnement de travail où il y a de la vie autour de moi, c'est super important. Alors des fois, je m'isole avec de la musique pour être pleinement concentrée, mais j'adore varier les environnements de travail. Je trouve que c'est hyper important justement pour tout ce qui est créativité au travail. La clarté. Pour moi, la clarté, elle est essentielle. Et dès que tu commences ta journée, c'est te fixer les bons objectifs et avoir la clarté sur ce que tu veux faire dans ta journée pour pouvoir vraiment avancer. Il y a quelque chose que j'ai démarré depuis quelques semaines aussi, que je trouve assez puissant, c'est à la fin de la journée, me poser la question de qu'est-ce que cette journée m'a appris de supplémentaire et qu'est-ce qu'elle m'a apporté, et je le note sur un cahier. Et ça permet de vraiment se focaliser sur les aspects positifs de sa journée et de cultiver finalement une vision positive de tes journées en ayant... en trouvant des richesses finalement dans ton quotidien. Donc ouais, la clarté, les intentions et puis qu'est-ce que la journée t'enseigne. J'ai envie de dire que à tous ceux qui ne se sentent pas forcément épanouis dans leur travail, j'ai envie de leur dire que n'abandonnez pas, c'est possible d'être heureux dans son travail et que chacun a les cartes en main pour agir et devenir acteur de son propre bonheur au travail. Et puis, sur ce sujet du Chief Happiness Officer, moi, j'ai envie de dire aux gens, devenez votre propre Chief Happiness Officer et rejoignez la grande génération des Chief Happiness Officers.
De l'air, H comme la hache de guerre, D, R, H, D comme je t'ai dédé, R comme je t'ai à terre, H comme payer moins cher, D, R, H, D, déconnecté, R, brasser de l'air, H, la hache de guerre.
Bonjour, je m'appelle Joachim Jung Hildebert, je suis CHD, Chief Happiness Dictator pour l'entreprise Tandax Partners. J'aime le bonheur, j'aime l'humain, j'aime mes collaborateurs. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire de Tandax Partners une great place to work. Il n'y a pas d'entreprise sans performance, il n'y a pas de performance sans bonheur, donc il n'y a pas d'entreprise sans bonheur. Chaque collaborateur a la liberté d'avoir sa propre conception du bonheur et je m'en cogne autant que je la respecte. L'idée n'est pas de faire réfléchir nos collaborateurs au concept de bonheur, hein. Ils n'ont pas le temps pour ça, non. J'ai fait une réunion et j'ai tranché. Un collaborateur heureux est un collaborateur en ligne avec nos valeurs et notre stratégie. Un collaborateur qui collabore. Une fois qu'on a dit ça, le bonheur, ça va tout seul. J'ai fait appel au cabinet In The Mool, des consultants spécialisés en happy fitting, c'est-à-dire qu'ils vont faire fitter la conception du bonheur des collaborateurs à celle de l'entreprise. Exemple, vous souhaitez passer du temps en famille le dimanche, ce qui peut arriver, je peux le concevoir, alors que vous devez répondre à vos mails, en télétravail évidemment, Eh bien, In The Mool va vous proposer un casque Bluetooth ultra isolant pour pas que votre vie personnelle vienne parasiter, phagocyter votre vie professionnelle. Le bonheur au travail, ce n'est pas qu'une question de cadre de travail. Bien sûr, nous avons une table de ping-pong, une salle de sieste, un espace jus de fruits, un espace smoothie à la banane, un vélo elliptique pour 400 personnes, des iPads pour faire du yoga, des graines de tournesol, de sésame, de pavot, de lin, de courge pour que chaque collaborateur puisse agrémenter selon ses convictions et sa personnalité la salade qu'il apporte au co-lunch. Ça, c'est la base. Le bonheur au travail, c'est avant tout fédérer. Tous les matins, le breakfast meeting convivial de 8h30 est l'occasion d'appeler chaque collaborateur par son prénom pour vérifier qu'il est bien là, ouvert aux autres et dans l'instant présent de 8h30 pétante. Le bonheur au travail, c'est régler les conflits par le jeu. Un laser game et c'est reparti. C'est faire passer ses frustrations sur les bons hommes du baby-foot à qui on peut faire faire ce que l'on veut. Oui, la roulette est tolérée chez nous afin que les collaborateurs puissent se lâcher sur le baby. Et bien sûr, le bonheur est dans l'horizontalité des organisations, des process. Les gens s'en font toute une montagne, si je puis dire. Horizontaliser, c'est très simple. Déjà, on fait pivoter l'organigramme de 90 degrés et ça va beaucoup mieux. Et puis, il suffit de changer l'intitulé de chaque poste. On ne parle pas de chef d'équipe, mais de project leader. On ne parle pas de manager, mais de top-down. Bottom-up stakeholder, hein, c'est beaucoup plus inclusif. D'ailleurs, fini les gens mis au placard. Auto-intrapreneur. Et je paye les cartes de visite. Exceptionnellement, nous, la Happiness Task Force, nous avons dû maintenir non pas une organisation pyramidale, mais on va dire une sorte de hiérarchie en sapin de Noël. Comme ça, pas de jaloux. Hein, tout le monde a un peu les boules. J'ai instauré des grades inspirés de l'US Army. Je suis le chef de l'état-major du bonheur et sous moi, il y a les Chief Happiness General, Chief Happiness Colonel, Chief Happiness Lieutenant-Colonel, Adjudant et tout en bas, le classique Chief Happiness Officer et c'est Chief Happiness Alternate Stagiaire qui communique sur les réseaux sociaux et rédige des articles de blog pour maintenir notre SEO au top. Car savoir faire le bonheur, c'est une chose, mais il faut le faire savoir. Marque employeur. Voilà comment tous nos indicateurs du bonheur sont au vert avec un taux quasi nul de UH. UH, unhappy. Ah, chez nous, pas de burn-out, hein. Que des burn-in. Plus intimiste. Un petit côté cheminée.
Putain, ça fait 20-30 ans, t'as déjà dit, ça fait 30 ans, moi et mon mari. Mais 30 ans de vie de merde, ça fait 30 ans que le matin vous buvez un café de merde dans une machine électrique de merde qui vous fait mauvais café, que vous levez tôt et que le réveil vous réveille le matin et que vous prenez un bus de merde pour aller dans une usine de merde pour faire gagner du pognon et énormément de pognon à un gros con. Ce gros con il vous veut plus. Putain, mais peut-être rendez-vous compte que c'est peut-être la chance de votre vie quoi.
L'un des premiers enjeux du manager est de passer du faire au faire-faire, du agir au faire-agir. D'une manière générale, un manager a quatre finalités. Il doit à la fois produire, c'est traiter et superviser les dossiers techniques propres à son métier. Gérer, prescrire, formaliser et contrôler le travail de son équipe. Animer, donner du sens, motiver, former, animer le collectif. Développer l'autonomie, la participativité, donner du feedback, accompagner le changement. Et enfin, innover. Améliorer, optimiser et inventer. quand on demande au manager français de répartir le temps qu'il consacre à chacune de ses quatre finalités, on obtient très régulièrement le résultat suivant. Production 40%, gestion 30%, animation 20%, innovation 10%. Vous comprendrez la difficulté pour les managers d'être bien évalués par des collaborateurs quand ils passent bien plus de temps à traiter leurs dossiers, à produire et à compléter leur tableau de bord à gérer, alors que les collaborateurs demandent plus de valorisation, de motivation, de soutien, de participativité. Déléguer, c'est dégager plus de temps pour l'animation, parce que vous en aurez gagné en confiant à vos collaborateurs des dossiers que vous aviez en charge, en autonomisant au maximum sur la gestion de sorte d'y être moins indispensable. Vous aurez par exemple construit un tableau de reporting à valeur ajoutée que pourront remplir et suivre les collaborateurs concernés, en utilisant l'intelligence collective pour construire et valider la vision et les changements à effectuer. Un bon manager de proximité a plutôt atteint cet équilibre de production 20%. Il ne vous reste que les dossiers techniques non délégables. Gestion 20%, ça roule, c'est suivi. Animation 40%, les collaborateurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et innovation 20%, vous êtes en amélioration continue et anticipation des changements. Je connais un manager qui a grimpé rapidement la hiérarchie d'une grande entreprise. Il me disait qu'il se donnait à chaque fois 3 ans pour arriver à n'avoir plus qu'à travailler 35 heures de travail par semaine avec des résultats en évolution. Les 35 heures atteintes avec résultats à la clé étaient signe que sa délégation avait réussi, qu'il avait su faire grandir ses équipes et passer du faire au faire-faire, et qu'il était temps pour lui de trouver un nouveau poste et de se réaliser ailleurs. Nous allons voir maintenant comment pratiquer cet art de la délégation.
D'être aussi pitoyable, ça me paraît impensable d'être autant inaudible. J'ai passé au crible tous tes textes sur ma table, et qu'on le veuille ou non, c'est incompréhensible. Ta grammaire est instable, improbable et horrible. Ta diction dépasse le stade de l'inadmissible. Arrête les messages, illisibles au portable. Reprends ton cartable, ton peura est pénible. Le plus insupportable, c'est que tu joues l'invincible, le braqueur introuvable, le voleur invisible. Peur terrible, imbattable, incorruptible. T'es peu crédible et minable, c'est méprisable et risible. Ne sois pas susceptible, mais tu n'es pas formidable. Ta plume est faible, ta carrière est vulnérable. Tu sais bosser souvent est une chose honorable.
Vas-y, casse-toi de là,
faites faire foutre. Commence par le Scrabble. J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs. Alors apprends à écrire, s'te plaît.
Justifie.
Quoi? Chez toi, y'a pas le dictionnaire. Allez, apprends à écrire, s'te plaît. Ou apprends à te taire. Un auditeur déçu peut vite faire un tortionnaire. Alors apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire. Tu mériterais vraiment qu'on te sectionne une artère. Alors apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à te taire. Oui, j'avoue qu'à l'écoute de ton titre, j'ai chopé la courante et pété une durite. T'as beau dire que c'est un hit, mais là faut que tu arrêtes. J'étouffe, j'ai l'impression d'avoir bouffé une arête. Les minettes du R&B avec leurs amourettes. Je l'aime, il m'aime et il m'a compté fleurette dans les pâquerettes. Autant m'ouvrir les veines, me faire sauter la tête, me cramer la plante des pieds avec des cigarettes. T'as sûrement du mérite, ou j'ignore ce que je rate, mais tu mérites. Et puis cette daube a été écrite à la hâte. Ce fond de teint va à ta robe favorite, mais en revanche n'espère vraiment plus rien de cette voix ingrate. Ceux qui disent le contraire ne sont que des hypocrites. Tu n'es pas prête, retourne à des activités concrètes. Je ne sais pas, acrobate, avocate ou marionnette. Je veux juste que tu dégages de mes pattes pour être honnête. J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs.
Je m'appelle Jean-Bill Duval, professeur agrégé de franglais à l'University of Michigan sur Loire, ambassadeur de la franglophonie worldwide et fondateur du collectif Be French, Be Authentic. Hello! De manière basique, le franglais, c'est l'avenir. Le grec et le latin ont été remplacés par l'athèque et le ricain. En ce sens, la langue française est une langue morte, du moins in real life. Je ne parle pas des zones géographiques situées en dehors des métropoles du top 10 qui sont complètement out of concern, out of scope. Roundabout People. Je me rappelle de l'épreuve de littérature comparée à l'agrégation. Il fallait analyser les allitérations en « the » d'une présentation PowerPoint de chez McKinsey et les mettre en perspective avec l'approche win-win du talk d'inauguration de la French Tech, un classique de la littérature franglaise. En complément de ma position de fonctionnaire, qui fait que je suis un peu short en termes de cash flow, j'aide des entreprises à trouver un nom. Enfin, je fais du consulting en branding slash naming pour des startups, un exercice plutôt tricky. Pour adresser cet issue, j'adopte une approche étymologique qui consiste à utiliser le préfixe my suivi d'un adjectif, suivi d'un keyword sur l'activité de la startup. My private cook, my smart tailor, my gluten free apple, elles se ressemblent toutes dans leur singularité, mais c'est valuable. En ce moment, je suis sur my devoted secretary. Si je dis ma secrétaire dévouée est un logiciel de gestion des paies qui automatise le travail d'un employé type Robert ou Monique, ça sonne français, on pense association. Or dans association, on entend saucisson et par extension, kirkassis, cacahuète, ordre du jour. Alors que si je dis My Devoted Secretary est une IA ou mieux une AI basée sur un algorithme qui va forwarder un email à Ganesh à Bangalore, aka Robert, son mandatory white name pour qu'il édite une payslip, là oui, il y a innovation et en plus, c'est cost-killing. En linguistique, on appelle ça distanciation. Je crois que vous dites distanciation. C'est-à-dire que le choix des mots, or should I say, le wording, va permettre de prendre de la distance par rapport aux implications réelles du business en question et par là même se délester d'un poids moral et donc de faire des affaires en toute impunité. Hands clean. Je dirais qu'on est fluent en franglais à partir du moment où on ne sait plus trop ce qu'on raconte. Bien, distanciation, speculation, bulle sémantique. Le franglais va donner plus d'importance à une chose qu'elle en a réellement. On parle d'overass farting. En franglais, il devient matériellement possible de péter plus haut que son cul. Le recordman de la discipline est le fondateur d'une de ces marques de burgers made in France. Je ne sais plus trop laquelle, ils sont très forts. Hein, ils sont à un pouce et demi au-dessus du niveau de... Il faut parler non pas de langue franglaise, mais de culture franglaise. Notre culture, l'inhéritage que nous allons laisser à nos enfants, ce sont ces colunchs, ces brunchs pour Thanksgiving, pour Halloween, pour Christmas Day. Ce sont ces afterworks interminables le long de grandes tables en formica dans des appartements homestagés où défilent tous les plats de la food tech, des veggie nuggets, des avocados toast with salmon et tout de même des scrambled guts and tripe with liver and pea colon. Du pâté si vous préférez. Mon tricks and tips aux inhabitants de la franglophonie, ne cherchez surtout pas à vous intégrer à la culture française. Be yourself. Un jour, un de mes élèves vient me voir à la fin du cours. Toc toc, je reste indifférent. Toc toc toc, je reste de marbre. Knock knock knock, là je réponds oui. Il me dit sœur, je dis oui Jean-François. Il me dit non, pas Jean-François, Jeff. Jean-François, c'est beaucoup trop lourd à porter. Je dis je prends ton point, qu'as-tu à me dire, Jeff? Et là, il me dit tout simplement merci. Merci avec un M uppercase. Grâce à votre cours de franglais, j'ai pu assumer ma vraie identité, mon identité DIY, celle que j'ai designée en dropant la Nièvre pour Paris. Et rien que pour ça, je me dis que mon job fait sens.
Ce qui frappe quand on vous découvre, c'est l'utilisation de la novlangue qu'il y a dans l'entreprise.
Oui, c'est tentant d'utiliser la novlangue parce que c'est un langage qui est drôle dès lors qu'on sort du contexte de l'entreprise. C'est très communautaire et très, très fermé comme langage. Et donc, l'utiliser, en fait, quand on le regarde de l'extérieur, c'est très marrant. On a l'impression de voir des cobayes. Ouais. C'est toujours, récemment, j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Voir des singes, et j'en étais un. Mais c'est très marrant de regarder des singes de l'extérieur. Et je trouve que parler cette novlangue, moi, ça m'évoque un peu ça. Il y a un côté très, très comique et quasi primitif, en fait, paradoxalement. Mm-hmm. Et puis oui, après, il y a un côté ridicule surfait, en fait, à utiliser cette novlangue, même si parfois, on est tenté d'utiliser les formes concises que permet l'anglais. Et puis, on essaye d'être en ligne avec le contexte international. Mais parfois, c'est surfait. C'est-à-dire que parfois, il n'y a que des Français dans la salle et on est là à utiliser un mot sur trois en anglais. Parfois, des mots qui ne font pas partie de la langue anglaise, en tout cas que les Anglais n'utiliseraient pas. Donc, on francise l'anglais et c'est très drôle. Enfin, bref, c'est très complexe. Et donc, j'en ai fait un petit peu ma marque de fabrique, en tout cas quand je critique toute cette novlangue, toutes ces approches un peu bullshitesques.
Alors, ça va au-delà du langage, aussi les comportements, les pratiques normalement managériales de l'entreprise, d'où le Chief Happiness Dictator.
Oui, là, il y a un petit peu...
Vous en avez connu
Il y a un peu... Il y a oxymore. j'en ai... Encore une fois, dans mon expérience personnelle, non, et j'ai aucun ressentiment par rapport à la boîte où je bossais qui était super en fait, qui m'a même encouragé à partir, tu vois, enfin à faire ce que je faisais, je sais pas comment le prendre d'ailleurs. Non non, ils étaient vraiment très cool, mais oui, par rapport au cynisme qui se dégage du monde de l'entreprise avec toutes les choses terribles qu'on voit en termes de harcèlement, de management toxique ou même de perte de sens, de vide sidéral parfois dans certaines entreprises. On a envie de pousser, de souligner ces pratiques-là. Et donc, oui, je caricature, mais c'est très propice à rire parce qu'on essaie de faire entrer des carrés dans des ronds. Le bonheur au travail, déjà, il y a un problème, quoi. C'est-à-dire que déjà, le bonheur, on peut disserter dessus longtemps, la quête du bonheur ou pas. Mais après, le bonheur au travail, déjà, c'est le restreindre et le cantonner à un tiers de la vie. Mmh. Parce qu'il y a le bonheur, quand on dort. Là au moins... C'est sûr que cette partie de la vie, elle est très cool. Mais le bonheur au travail, je trouve ça un peu ça restreint. Et puis si on cherche le bonheur qu'au travail, c'est que derrière, on n'est pas très heureux, quoi.
Mais donc, vous allez loin, parce que vous avez un sketch sur le harcèlement qui est dur, hein.
Ouais,
le management
pour
toxique.
Le coup, je me suis inspiré d'un livre de Kika, Je ne te pensais pas si fragile. Et donc, j'ai un peu déroulé la recette qu'on lit en creux, parce qu'elle, c'est le récit d'une personne qui a vraiment vécu un burn-out et qui a subi les sévices d'un manager toxique. Et donc, moi, en creux, je déroule la recette pour devenir un manager toxique, comme c'était un tuto un peu sympa.
Ouais.
Et oui, en tout cas, j'aime bien parler du sujet très acide, sous couvert de... Alors, c'est pas un ton bucolique, mais c'est ce côté très lisse, en fait, qui est très dangereux et très cynique dans l'entreprise. Tout est surfait. Tout est beau, on utilise un langage inclusif, on pousse ça, on utilise un langage franglais justement pour masquer une sorte de réalité. Alors parfois c'est sincère et on passe pas notre temps en entreprise à vouloir cacher le mal, mais souvent tout ce décor cache des choses terribles, et donc j'aime bien en parler. C'est un peu j'ai toujours le même personnage dans mes vidéos, il parle de la même manière, le prof de franglais ou le dictateur, il parle de la même manière, c'est toujours le même gars très propre, très machin, et qui dit des choses horribles en fait.
Mais que me reprochez-vous, me convoquez pourquoi? Oui, j'ai quitté ma caisse, mais j'en avais le droit. C'était l'heure de la pause, plutôt que de manger, j'ai préféré parler, discuter, échanger.
Et de quoi parliez-vous, si je peux me permettre?
Nous parlions, c'est-à-dire, je crains de compromettre la réputation de certains et certaines. Vous savez ce que c'est, les passions, les haines. Et j'aime les ragots, les cancans, les potins qui puisent, c'est mon dada, je n'y changerai rien.
Arrêtez, vous mentez, pour qui me prenez-vous? Je ne viens pas gober vos histoires à deux sous. Délégué syndical, militante à LO, faut-il que je rajoute autre chose au tableau? Si vous semez le trouble, ne vous étonnez pas que la direction, un beau jour, vous renvoie.
De suite les grands mots, les menaces, et cela, parce que j'ai bavardé, elle est bien bonne celle-là. Mais mettez-moi au coin avec un bonnet d'âne, puisqu'ici tout se passe comme à la communale.
Quelqu'un m'a rapporté votre petite idée. Minute de silence, discours, est-ce que je sais? Je vous prie, mademoiselle, de faire le nécessaire pour qu'il n'arrive rien, mademoiselle. Est-ce clair?
Alain Deneau, première. Alain Deneau, directeur de programme au Collège international de philosophie. La novlangue, le travestissement du vocabulaire traditionnel de la pensée politique, ils rendent compte d'une réalité du pouvoir tout en le consolidant. On assiste à une implosion du corpus traditionnel de la pensée politique, c'est-à-dire une sorte de perte de substance et de pertinence des mots. On disait politique, on dit gouvernance. On disait peuple, on dit société civile. On disait citoyen, on dit partie prenante. On disait écologie politique, on dit développement durable. On disait patient, usager, visiteur, spectateur, on dit client. Le vocabulaire est complètement subordonné à un discours qui est inspiré, lui, du management. On a fait comme si tout ce qui regarde
l'organisation de la vie en société devait désormais être pensée par le prisme de l'organisation privée. On a même, dans des pays qui sont complètement à la dérive, là, des anciens banquiers qui deviennent présidents en créant un mouvement qui se présente comme une entreprise politique. En s'inspirant d'un vocabulaire managérial, on est tous associés comme si les hiérarchies venaient de disparaître alors qu'elles sont plus coercitives que jamais. L'entreprise devient un horizon indépassable. Tout est entreprise. Et nous-mêmes, on n'est plus citoyennes ou citoyens, on est auto-entrepreneurs. On doit apprendre à se vendre et à mettre en valeur son capital santé, puis son capital beauté, puis gérer ses amitiés, puis entrer dans un discours strictement, au fond, affairiste. Et dans les théories littéraires, on parlerait d'une focalisation, hein? C'est-à-dire qu'on raconte le monde en fonction de l'intérêt des entreprises. Il faut ouvrir le dimanche, il faut signer un accord de libre-échange, il faut négliger les considérations écologiques, il faut négliger les gens, leur santé mentale et physique. Gilles Deleuze dirait qu'on a, en quelque sorte, encodé dans ce vocabulaire psychologique-là les modalités propres à l'entreprise, en gommant ce qui relève du reste de la domination, de la médiocrité, de l'absurdité, de l'aberration, de l'immoralité, de la violence, de la destruction, de la cruauté, de l'impérialisme, de tout ce qui fait, bref, la vie de la multinationale telle qu'elle s'impose aujourd'hui. Puisque nous nous sommes laissés aliénés dans cette perspective atomisante et individualiste, on en est venu à se dire « Oui, mais qu'est-ce que je peux faire, moi ?» Évidemment, poser la question comme ça, c'est y répondre. Rien, rien faire. Ça. Mais le tour de force des idéologues, c'est de nous avoir persuadés que nous sommes des individus. Alors que n'importe quel anthropologue marquera le fait que dans la plupart des cultures du monde, on se considère d'emblée dans un collectif. La plupart des sociétés dans le monde ne sont même pas capables de concevoir l'individualisme, tellement c'est une construction factice et brutalement contraire au sens élémentaire. Donc, penser collectivement. Se rappeler que l'histoire est le fait de, non pas de majorité, mais de minorité suffisamment intense pour valoir à titre de peuple. L'acte émancipatoire par excellence, à ce stade de l'histoire, serait de faire systématiquement subir une halte critique à tout vocable provenant d'une institution de pouvoir. Gouvernance, management, compétition, excellence, innovation, auto-entrepreneuriat. Et l'acte donc, critique par excellence aujourd'hui peut se passer à une échelle très humble. Ce serait de dire, dans un cadre professionnel, non, non, je ne désignerai pas mes patients comme des clients. Déjà, on restitue la notion de service public. Juste là. Et on fait passer pour choix ce que l'on essaie de déguiser en situation d'évidence. Et on crée déjà un rapport de force qui est tout petit, mais il se démultiplie. Et c'est par ce type d'initiative courageuse, parce qu'il est difficile de le faire in situ, qu'on avance et qu'on jette les bases de transformation radicale de la société, au sens où c'est en agissant de la sorte qu'on en viendra d'une manière plus visible et plus spectaculaire et plus large dans l'histoire à nous donner des institutions qui nous ressemblent. Le philosophe Patrice Leroux qui disait « être de gauche, c'est de ne pas savoir où on va. » On sait qu'on ne va pas dans le mur, on s'essaie à quelque chose. Et on s'essaie à quelque chose qui n'est pas ça. Et quand on s'essaie à autre chose, ça ne veut pas dire qu'on est démuni, et qu'on est hasardeux, et qu'on est irresponsable. Au contraire, c'est sur la base de convictions, de critères, de modèles, d'expériences déjà réalisées à petite échelle, municipale par exemple. Ou communautaire, qu'on arrive à se projeter dans des échelles plus larges en se disant que le jeu en vaut largement la chandelle.
C'était il y a 10 ans qu'un tout petit ouvrier travaillait sans compter ses heures européennes,
dans une PME, il se croyait chanceux, rembourser sa maison et celle du patron. Quelques années plus tard, sans même le concerter, l'entreprise est vendue à un groupe financier. Patron a négocié, en vendant son affaire, une place de PDG, le reste en billets verts. Il restera 6 mois et sera remplacé par quelqu'un dans le même cas qui viendra ramasser le pognon. Toi mon gars, tu te vois refuser au nom de je ne sais quoi, ton salaire est gelé. Mais on dit c'est ta faute, tu voulais 35 heures, ferme ta gueule ou tu sautes. On n'aime pas trop les chieurs, non la reine l'actionnaire lui dit le matador. Me paye pour te faire taire, exige ta mise à mort. Le tout petit ouvrier, un jour est licencié, fatigué, écœuré et même plus syndiqué. Il a 40.